Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Troisième fin de semaine de juillet 2025. Ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAQ 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Toujours content de vous retrouver sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Pour une autre édition estivale. En tout cas, l'été se fait pas prier cette semaine, c'est le cas de le dire. Quoique, et ça fait drôle à dire, on aura une fin de semaine un peu plus douce, avec des températures sous les 30 degrés. Parce qu'on dirait que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et voilà. Température chaude, pluie forte. 93 mm de pluie seraient tombés dans Chaudière-Appalaches hier. Tout dépendamment des secteurs, entre 36 et 93 mm ont été observés. L'aéroport ayant eu le moins avec 36, mais étant un petit peu plus élevé, je ne sais pas si ça fait influence. Et Charny s'est ramassé avec 93 mm de pluie. Et Drummond est entre les deux avec 55. Mais il n'y a pas de changement climatique. Ça, ça n'existe pas. Enfin, bref, blague à part. Ce qui est moins une blague, et ça, on va l'avoir. On va avoir été surpris cette semaine, disons ça comme ça, puisque. Ben, j'aime bien l'image, j'aime bien l'image. En bon cheval de Troie, Éric Gérard a présenté le réinvestissement en éducation, ou en tout cas l'annulation de coupures, pour utiliser des termes un peu plus justes, parce que bien sûr, si on demande au gouvernement de la CAQ, on va parler de rééquilibre budgétaire, de réorganisation des finances. Si on demande aux principaux intéressés, ben c'est des coupures en éducation purement et simplement. Et c'est pas mal ça. Devait être coupé 570 millions. Seront remis en éducation 540. Donc, le manque à gagner va être beaucoup moins pire, surtout. Voilà, c'est pas non plus les gros chars, au sens où c'est de l'argent qui était déjà là, qu'on a enlevé pendant quelques mois, mais là, parce que la chicane était pognée avec tout le monde, parce qu'il y avait aussi une pétition de 150 000 ou même 157 000 signataires parrainés par Pascal Bérubé du Parti québécois qui est en train de prendre la tête et en train de devenir particulièrement important sur le site de l'Assemblée nationale. Des pétitions en ligne, habituellement, ça n'a pas autant d'impact ou autant de signatures. Donc, il y avait quelque chose qui se passait pour vrai. Et comme la CAQ, en ce moment, ça va pas bien, ben fallait peser le pour et le contre, fallait commencer à regarder quelles sont nos options pour peut-être essayer de sauver les meubles en 2026. Et de l'avis aussi de quelques experts interviewés, faut peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est le moins pire? Se faire haïr pendant un an parce qu'on a enlevé 570 millions en éducation ou revenir sur notre décision, même si ça fera en sorte qu'on n'aura pas d'équilibre budgétaire, comme ça semble être le gros dada du parti de la CAQ, bien, on va remettre le 540 millions, mais on ne s'excusera pas de l'avoir enlevé. On va dire que c'est de l'argent qu'on investit, hein, qu'on ajoute aux finances du département de l'éducation. Puis dans ce cas-ci, ben là, on va se vanter de ne jamais avoir autant investi en éducation comme il le faisait déjà. Mais là, en plus, il rajoute 540 millions. Fait que c'est ça. Mettons que il ne faut pas être dupe. Ils enlèvent quand même 30 millions dans le système au grand complet. Et c'est ce qui est un peu drôle, c'est que cet argent-là qu'ils ont juste enlevé la première fois en disant aux commissions scolaires « Arrangez-vous avec ça, arrangez-vous pour arriver avec vos nouveaux budgets. » Ce qui faisait également en sorte que dans les dernières semaines et dans les derniers jours, il y avait des parents d'enfants qui recevaient des communications de « Bon, ben voici tout ce qui sera coupé à la rentrée. Donc, si votre enfant avait besoin d'orthopédagogie, prévoyait faire le voyage de fin d'année, voulait aller à telle affaire, bien, oubliez ça, on n'a plus d'argent pour. » Fait qu'ils commençaient, les parents, à recevoir ce qui était coupé dans les services scolaires. Bien, en remettant ce 540 millions, on inverse le 5 puis le 4. Donc, le 540 millions qui retourne dans les coffres d'éducation, Bernard Drinville est allé en disant « Oui, mais attention! » Et étonnamment, c'est pas encore ça le cheval de Troie. Fait que, attention! Oui, on remet 540 millions, mais 425 millions doivent être injectés dans le réseau public. 29 millions seront pour les écoles privées. 86 millions restants, eux, seront remis à une vingtaine de centres de services scolaires au Québec pour ne pas dépasser la cible de 2 % la croissance du nombre d'employés qui avait été fixé par le ministère de l'Éducation. Donc, pour réengager, sans engager des nouvelles personnes, donc réengager ceux qui s'étaient fait mettre dehors parce qu'on n'était pas certain de pouvoir leur donner un salaire rendu à l'automne, s'ils ne s'étaient pas déjà retrouvés à un autre job parce que c'est pas vrai qu'ils allaient attendre 4 mois avant de faire comme « ben là, je vais-tu avoir une job ou pas? » Fait que ça se peut qu'il y ait même des services scolaires qui manquent d'employés encore une fois parce que ce monde-là a dû se revirer il y a 2 mois lorsque les coupures ont été annoncées. 2 mois et demi, 2 mois. Fait que voilà, c'est sûr qu'il va y avoir des places où ça ne fonctionnera pas parce que justement, ils ont déjà perdu ces employés-là parce qu'à force de se faire dire « ouais, peut-être pas », ben ça vaut pas la peine de rester là, surtout si on a une hypothèque à payer. Fait que dans tous les réseaux scolaires, on va pouvoir récupérer, c'est ça, une partie de cet argent-là sans bien sûr la recevoir en entier, ça c'est sûr et certain, mais où il y avait une petite cachotterie à faire par le gouvernement de François Legault, c'est parce que Geneviève Guilbeault, de son côté, elle voulait de l'argent, elle aussi. Geneviève Guilbeault, elle voulait de l'argent pour pouvoir garrocher dans son troisième lien. Puis pour garrocher dans son troisième lien, son 215 millions qu'elle demandait au Conseil du Trésor, ben on pouvait pas juste donner cet argent-là à Geneviève Guilbeault. Donc, dans le beau cheval de 540 millions de dollars de l'éducation, se cachent les petits sbires à l'intérieur. Et ça, c'est les montants qui vont aller à Geneviève Guilbeault. Donc, un 215 millions supplémentaires. Donc là, on est rendu à une dépense dans la seule semaine de quasiment 750 millions. Parce que Geneviève va obtenir son 215 millions pour ouvrir un bureau de projet à Québec pour pouvoir recommencer à regarder, à faire le troisième lien dans le corridor le plus compliqué possible. On s'en souviendra encore une fois, l'argent des contribuables, parce que Geneviève en avait besoin de son montant. Et quelle aurait été Parce qu'encore une fois, c'est important de calculer le risque et de faire le risque d'annoncer en fin de journée, même si c'est en fin de journée, seulement l'investissement dans le 200 quelques millions à Geneviève Guilbeault. Quand on vient d'en couper 570 en éducation, bien évidemment, là, il y aurait eu encore plus une montée de bouclier et la grogne aurait été encore plus fort envers la CAQ. Donc, pour adoucir, j'ai dit 215, mais c'est encore pire, c'est 275 millions. Donc, pour adoucir le 275 millions à Geneviève, on a remis 540 millions dans l'éducation. Bon, ça, c'est les langues sales et moi qui vont dire ça, mais ça ressemble à ça quand même, parce que réellement, si on coupait 575 millions en éducation pour en redonner 275 à Geneviève, il n'y a pas d'économie à faire là-dedans. Parce que à la base, pourquoi il y avait autant d'argent qui était coupé en éducation? C'était pour faire des économies, parce qu'on jugeait à Québec, on jugeait dans le bureau à Bernard que l'éducation avait déjà suffisamment d'argent et que si on enlevait ce montant-là calculé, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, bien que ça allait être correct, qu'on allait quand même être capable de continuer à donner le service aux élèves, etc., etc. Évidemment, quand on est rationnel, quand on regarde comment ça se passe pour vrai, c'est pas de même que ça se passe. C'est sûr et certain. Donc, cette confiscation-là d'argent, parce qu'évidemment, quand on retire des montants, c'est parce qu'il va y avoir des services qui vont être retirés. C'est pas vrai qu'on est capable de... Surtout en ce moment, dans le système d'éducation, comment il ne va pas très bien non plus. On ne peut pas juste enlever de l'argent en se disant « Ben, on avait déjà mis de l'argent dans les autres années, fait que ça va être correct. » Bien sûr que non, parce qu'il y avait déjà du sous-investissement en éducation dans les autres gouvernements. Fait que oui, peut-être, est-ce que la CAQ, même s'ils se vantent à chaque fois de dire qu'ils n'ont jamais autant mis d'argent dans le système, puis nanana, peu importe, fine. Mais il y a quand même le bout où il y avait déjà des manques à gagner, il y avait déjà du manque de financement. Est-ce que c'est encore normal que les enfants soient obligés de vendre à cette heure du vin, du café, du chocolat, des fruits, tu sais, qu'ils partent une coopérative pour financer des affaires parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire ces activités-là? Ben, faut se poser la question, parce que c'est ça, du fromage aussi, hein, ça, la vente de fromage. Fait que tu sais, un moment donné, tu peux pas tout faire à croire que ça va bien aller mal quand tu vas couper directement à la source. Et évidemment, ben, ça a fait en sorte que dans les dernières semaines, on avait ressorti les messages que François Legault avait mis sur les réseaux sociaux quand il était dans l'opposition face à Philippe Couillard ou face à Pauline Marois en disant « Mon Dieu, les coupures en éducation, ça n'a pas de bon sens. S'il y a bien une richesse au Québec où il ne faudrait jamais couper, c'est bien en éducation. » Fait que c'est pour ça que c'est toujours drôle après ça, quand parce que les écrits restent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Surtout les écrits sur Internet qui sont facilement retraçables. Quand on marque les bons mots-clés dans le moteur de recherche, ben c'est ça. Ça donne François Legault qui contre François Legault de 2025 qui contredit François Legault de 2012 qui, surprise, disait la bonne chose à ce moment-là, mais qu'une fois rendu au pouvoir, ah, là, ça devient un petit peu plus difficile. Donc, dans ce 275 millions-là de Geneviève, elle aura la possibilité d'ouvrir un bureau de planification pour l'élaboration du dossier d'affaires pour éventuellement commencer une pelletée de terre du côté de Lévis et de Québec pour commencer son troisième lien. Le but, en tout cas, dans ce premier 275 millions de dollars-là, c'est qu'on veut faire des études de sol. Parce que oui, on en a déjà fait pour les autres corridors, mais celui-là, que je rappelle, qui va défoncer le sous-sol de la Haute-Ville, va servir à voir à quelle profondeur il faut aller creuser, à quelle profondeur, le fleuve se situe dans ce coin-là. Puis pour faire ces études-là, ben c'est ça, ça coûte très cher. Et puis même si ça avait été évalué par des alliés, la CDPQ à EFRA qui disait que c'était le pire tracé de la ligne, ben en tout cas des lignes possibles, Geneviève y était allé de l'avant avec celui qui, comme je le rappelle, devrait seulement sortir du côté des autoroutes pour aller plus rapidement aux galeries de la capitale en partant de la rive sud. Donc, en espérant que son projet de faire ça en 2027 continue de subsister, même si pour elle, c'est le plus important de garrocher de l'argent le plus rapidement possible pour faire à croire que le PQ ne sera jamais capable de démonter le projet du troisième lien, ce qui est encore possible. Le plus que ça va faire, c'est que du côté de Lévis, le chemin des îles, je l'appelle tout le chemin Saint-Louis, mais c'est le chemin des îles, va être plus large. Parce que c'est ça, en ce moment, l'élargissement de l'autoroute, c'est à peu près la seule affaire qui a été faite en vue d'un troisième lien du côté de Lévis. Ben c'est ça, le chemin des îles va être deux voies plus larges pour du trafic que finalement il n'y aura pas. Mais ça sera ça. Puis au moins, on aura sauvé le commencement de piliers dans le milieu du fleuve Saint-Laurent à une profondeur toujours inconnue. Parce que les sols, c'est pas les plus stables dans le fleuve. Donc, voilà, du gros pelletage de nuages. L'éducation n'est pas tout à fait sauvée et on engouffre un 275 millions qui aurait pu être donné à l'éducation, mais qui, à la place, va être investi dans le fleuve. Courte pause. Au retour, la suite du deuxième service sur les ondes de CFAX, sur les ondes de Chiz. Thaïs, combien entendra en musique sur les ondes de CFAX, sur les ondes de Chiz? Pour faire un changement, encore une fois, parce qu'on dirait qu'il y a juste ça de ce temps-ci, mais c'est ça, quand c'est tranquille, en politique canadienne, on se tourne vers le côté américain et ça manque pas de sujets de ce temps-ci. Pour faire le résumé des derniers jours et des dernières semaines, on est de retour dans le scandale de Jeffrey Epstein, puisque, pour les derniers épisodes, Jeffrey Epstein a été trouvé coupable de proxénétisme, a été trouvé coupable de crimes aux États-Unis. Et en attendant son procès, on l'a retrouvé suicidé, dit-on, dans sa cellule. Donc, il n'y aura pas eu de procès. On n'aura jamais su qui sont les victimes, etc., etc. Sa conjointe, compagne, Ghislaine Maxwell, elle est toujours vivante pour l'instant. Et elle doit... elle a-tu son procès? Ou en tout cas, elle avait été reconnue coupable, elle aussi, pour avoir aidé et sollicité des mineurs à commettre des actes sexuels, etc., etc. Donc, voici pour les deux personnages. Et dans la dernière campagne électorale et avant ça, Donald Trump militait, ou en tout cas disait que lorsqu'il allait reprendre le pouvoir, il allait rendre public la liste des clients de Jeffrey Epstein. Donc, Jeffrey Epstein avait un bottin ou des feuilles contenant tous ses clients qui ont soit déjà pris son avion privé ou qui avaient déjà été sur son île ou sur l'île, il y avait des mineurs qui faisaient des affaires. Fait que, des affaires sexuelles, bien sûr. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'on voulait connaître le fin mot de l'histoire et surtout pour la branche MAGA et la branche rouge, on voulait retrouver le plus de démocrates possible sur cette liste-là. Le problème, c'est que Donald Trump, dans les années passées, s'est tenu énormément avec Jeffrey Epstein et a toujours clamé ne jamais avoir été en tant que tel sur l'île, mais à tout le moins d'avoir pris l'avion de Jeffrey Epstein, son jet privé. Chose qui avait été avérée, la liste des passagers de l'avion avait déjà été communiquée, évidemment, Donald Trump y était. Il y a des images d'archives de Donald, de Ghislaine, de lui, Ghislaine, ou en tout cas, peu importe comment on l'écrit. Et il y a des vidéos de Donald et Jeffrey Epstein à un party de fête qui sont ensemble, qui checkent les petites filles au bout du jeu, dans le party, qui dansent, etc. Fait que ces images-là existent. Mais pour Donald Trump, il n'a pas de lien avec Jeffrey Epstein. Et où ça a été problématique cette semaine pour lui, c'est qu'il a commencé à dire que cette liste-là n'existe pas. Et ça, cette liste-là n'existe pas venant de la bouche de Donald Trump, même pour les MAGA les plus purs et durs, ça ne passe pas. Donc, en ce moment, Donald Trump se met à dos sa propre base électorale parce que on ne sait pas. Est-ce que son nom va se retrouver dans cette liste-là? On ne le sait pas exactement si c'est le cas ou non. Puisque est-ce que c'est la procureure de la défense ou en tout cas une des responsables de Donald Trump, Pam Bondi, il me semble que c'est ça son titre officiel, là, en tout cas secrétaire à la défense, non. En tout cas, le nom, c'est la procureure générale, donc celle qui fait des poursuites aux États-Unis, ou en tout cas fait des poursuites au niveau fédéral. Et dans ce cas-ci, ben, elle disait dans des entrevues il y a quelques mois, « Oui, oui, la liste est sur mon bureau, j'achète, on va la rendre publique bientôt. » Il y avait eu un stunt aussi, il y avait des YouTubers de droite qui étaient sortis de la Maison-Blanche avec des cartables, avec « Dossier Epstein, partie 1, part 1 ». Puis ils montraient ça en disant « Regardez, on va avoir enfin la vérité ». Parce que je le rappelle, Donald Trump s'était fait élire en disant qu'il allait rendre public les papiers de Jeffrey Epstein jusqu'à cette semaine. Parce que même Pam Bondi, qui disait qu'elle avait les papiers sur son bureau, soudainement, elle n'avait plus la liste des clients de Jeffrey Epstein sur son bureau. Mais quand elle disait qu'elle avait des papiers de Jeffrey Epstein sur son bureau, des listes sur son bureau, ce qu'elle voulait vraiment dire, parce qu'évidemment, elle s'est auto-mal citée, c'était qu'elle avait des papiers concernant l'affaire de Jeffrey Epstein et pas nécessairement la liste de clients que les magas veulent absolument consulter. Évidemment, là, on essaie de tant bien que mal rétro-pédaler et de faire en sorte que ben on va essayer de noyer le poisson, ce que Donald Trump a fait lui-même en commençant à dire cette semaine que c'était des fausses nouvelles, fake news, que ça n'existait pas, que c'était un hoax, donc que c'était un coup monté et que c'était organisé par Barack Obama, Hillary Clinton, puis un ancien conseiller aux deux, ou en tout cas un ex-responsable démocrate, que c'était de la propagande démocrate maintenant, donc que c'était les Bleus qui avaient tout orchestré ça pour faire mal paraître Donald Trump aujourd'hui. Et ça, autant il aime beaucoup rappeler que c'est toute la faute de Joe Biden, de Barack, de Hillary, autant que là, dans sa propre base, il commence à y avoir des gros points d'interrogation qui se soulèvent, puis des « Ouais, mais c'est pas ça que tu nous disais pour te faire élire. » Et littéralement, des alliés de longue date sur des plateformes comme Twitter, comme sur Twitch, on commence à dire « Ouais, là, on a-tu bien fait de voter pour lui si lui aussi veut commencer à cacher des choses que normalement, ça devait être uniquement les démocrates qui faisaient ça. Que maintenant, Donald Trump commence à cacher des choses, qu'est-ce que cela veut dire? » Et ça, évidemment, ben ça fait pas l'affaire de beaucoup de monde. Et ben outre le fait que ça fait rire, ben en ce moment, c'est ça, Donald Trump commence à s'allier sa propre base contre lui, puisqu'il commence à leur dire « Si vous avez cru qu'il y avait une liste d'Epstein, vous êtes des niaiseux, vous faites avoir par la propagande des Bleus, c'est vous le problème, vous aviez juste à mieux faire vos recherches. » Essentiellement, c'est un peu le discours qu'il y avait cette semaine, mais pour tenter de pas de rééquilibrer, mais en tout cas de tenter d'essayer de mieux paraître. Parce que, ah oui, c'est vrai, hier, le Wall Street Journal s'est invité dans le débat avec Jeffrey Epstein, puisque le Wall Street Journal a mis la main sur un livre qui avait été remis pour les 50 ans de Jeffrey Epstein, contenant des textes et contenant des vœux d'anniversaire, mais très, très salace et très, très grivois. Genre, on se vantait d'affaires sexuelles grâce à Jeffrey Epstein. Et au travers de ces fameuses lettres et ces bons 50e anniversaire de Jeffrey Epstein, il y avait Donald Trump qui signait une lettre lui-même avec une espèce de dialogue pas clair, de sous-entendu, de « Oui, oui, on les a eus ». En tout cas, mais tu sais, c'est pas tout à fait clair qu'est-ce que la lettre veut vraiment dire, mais évidemment, les suppositions vont bon train. C'était, voilà, pour le 50e anniversaire, Ghislaine Maxwell avait sollicité plusieurs dizaines des plus proches amis de Jeffrey Epstein, dont Donald Trump. La lettre au nom de Donald que le journal indique avoir pu consulter est de caractère salace, comme d'autres dans ce livre en or. Elle comporte plusieurs lignes de texte dactylographiées entourées d'un croquis de femmes nues, apparemment tracées au marqueur. Donc, ce serait la lettre de Donald Trump. Et bien sûr, ben, il était en beau maudit, pour ne pas dire autre chose, hier soir sur son réseau social en disant que le Wall Street Journal était des fake news, était la pire abomination du monde et qu'il allait poursuivre Rupert Murdoch, propriétaire du Wall Street Journal. Fait que c'est ça. En ce moment, Donald Trump est en beau maudit, ce qui a fait en sorte que vendredi matin, pour aller à la conclusion de cette énorme semaine, on annonçait à tout le moins que Donald Trump allait personnellement signer un papier pour remettre de l'avant des papiers de Jeffrey Epstein, donc pour déclassifier certains documents judiciaires. Parce que faut se souvenir également que dans certaines cours, dans certains États, on votait depuis le début de la semaine pour rendre illégal la publication de documents concernant Jeffrey Epstein. Et même du côté du Sénat, on avait voté pour que les papiers de Jeffrey Epstein ne soient jamais rendus publics. Et évidemment, tous les rouges votaient pour protéger Donald Trump. Sauf que là, suite à toute cette controverse-là, et en plus avec le Wall Street Journal qui contre-attaque jeudi soir, la ministre de la Justice de Donald Trump a annoncé vendredi la levée du secret judiciaire pour des documents concernant Jeffrey Epstein. Est-ce que la liste, si elle existe ou non, se retrouve là-dedans, même s'il a dit depuis plusieurs années avant de se faire élire qu'il fallait rendre publique cette liste-là, qu'il a mystérieusement disparu aussi au début de la semaine? Est-ce que, c'est ça, il va falloir la rendre publique? Ça le dit pas. Il y a évidemment des papiers qui vont être rendus publics, mais est-ce que ça va être des trucs qu'on savait déjà, comme dans les cartables de la partie 1? Probablement. Donc, la partie 2. Mais voilà. Donc, en ce moment, et surtout, parce que comme on le connaît, Donald Trump n'y va pas de main morte habituellement avec ceux qui l'aiment pas. Fait que là, que maintenant, il n'y aille pas de main morte avec les gens qui sont supposés l'aimer, c'est ça, eux autres sont comme sous le choc, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Voyons, Donald Trump serait-il un visage à deux faces? Surprise! Ça a été un peu l'espèce de leitmotiv de toutes les late shows cette semaine. C'est comme, bienvenue dans notre monde à nous autres depuis les six dernières années que Donald Trump a été président des États-Unis. 4+1-ish, là, parce qu'il vient de revenir, mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme, on est habitués, nous autres. Arrangez-vous avec ça maintenant, les magas, que vous allez aussi subir ces foudres. Ce qui va probablement réellement donner un peu de jus pour Elon Musk s'il part réellement son nouveau parti aux États-Unis, le Parti de l'Amérique ou une affaire de même, qui vient directement jouer dans les plates-bandes de Donald Trump si jamais ça se concrétise pour la prochaine élection. Mais encore une fois, ça sera bien sûr à surveiller parce que ce n'est pas chose faite non plus. Ça y prend un candidat vedette parce que lui-même ne peut pas se présenter, on le rappelle. Donc voilà pour ça aux États-Unis. On reste un petit peu quand même aux États-Unis puisqu'on parle de Superman tout de suite après cette courte pause ici sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Simon Lachance, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Bande annonce tout de suite. De la dernière œuvre du DC Universe qui repart sa franchise de super-héros avec Superman.
Est-ce que t'es sérieux en ce moment?
Ouais.
Tu me laisserais passer Superman en entrevue?
Bien sûr.
Prêt?
Allons-y, Crankite.
Superman.
Mademoiselle Lane.
Ces derniers temps, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour
ce que l'on... Je ne dirais pas qu'elles étaient nombreuses.
Il y en a eu beaucoup. Le secrétaire à la Défense a promis de se pencher sur votre implication en Boravia. Ça vous fait rire?
Mon implication? J'ai empêché une guerre.
peut-être bien.
Non, pas peut-être bien, c'est un fait.
La réalité, c'est que vous êtes entré illégalement dans un pays.
C'est comme ça que vous voyez les choses?
Je ne suis pas la personne qui passe une entrevue, Superman. Avez-vous consulté le président?
Non.
Le fait que vous ayez agi comme l'aurait fait un véritable représentant des États-Unis...
Je ne me suis fait passer pour personne d'autre que moi.
Causer plus de
problèmes. Et le bien, je représentais le bien.
Si j'étais dans la même situation, je me questionnerais et je réfléchirais aux conséquences.
Sérieusement, des gens allaient mourir? Hé, mon gars, regarde-moi.
Tes choix. Mais aussi tes actions. C'est ça qui fait de toi ce que tu es.
Ce n'est pas un homme. C'est une chose qui a trouvé le moyen d'être au centre des conversations du monde entier. Et ça, jamais. Je ne l'accepterai.
J'ai nettoyé tes bottes. Je vais aller te les chercher.
Avec Crypto, le super chien. James Gunn, qu'on est allé chercher à l'univers de Marvel, signe le tout premier DC Movie. Donc, la compétition directe de Marvel, les films de DC. Débarqué de la planète Krypton alors qu'il n'était qu'un bébé, Superman est devenu le protecteur de Metropolis, un genre de New York. Sa propension à mettre sur un piédestal la vérité et la justice le plonge toutefois dans des situations périlleuses. C'est le cas lorsqu'il tente de calmer l'escalade de violence entre deux pays. De héros acclamés, il risque de devenir un paria auprès de la population, surtout depuis que des faits nouveaux sur son héritage familial sont révélés au grand jour. Il est pris en grippe par le riche et puissant Lex Luthor. Superman devra trouver un moyen de résister à l'adversité s'il veut secourir l'humanité. Rien de moins. Donc, on est dans le bien contre le mal, bien sûr, mais on est dans une version quand même assez moderne aussi, parce qu'il y a beaucoup de liens qui se feraient si Superman existait aujourd'hui en 2025, au sens où il est critiqué sur les réseaux sociaux puis il n'aime pas bien ça. Le climat politique n'est pas super bien. Disons que d'un pays qui essaye d'envahir un autre pays pour l'annexer à son pays, disons que ça ressemble à beaucoup de choses en ce moment aussi. Ce qui a fait, par ailleurs, aux États-Unis, fâcher la droite extrême américaine ou l'extrême droite américaine, parce que c'est ça. Ben, on parle d'annexion de pays, on parle de Clark Kent comme étant un « alien ». Et ça, cette expression-là est revenue à la mode « alien » pour parler des immigrants. Mais chose surprise, Superman est un immigrant comme il n'est pas né sur Terre. Fait que raison de plus, il n'est pas né dans le pays où il se trouve à ce moment-là. C'est les États-Unis quand même, mais même si les noms de villes changent dans l'univers de DC. Mais voilà, donc il y a eu cette mini-controverse. Ben, mini-controverse. Controverse aux États-Unis-là quand même. Parce que, ben, c'est ça, tout est politisé aux États-Unis en ce moment. Sinon, pour le film, en tant que tel, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. C'est pas un mauvais film, c'est intéressant, mais on est... Puis surtout qu'on sort d'un univers très, très noir, très, très sombre, avec l'homme d'acier, avec les précédents opus qui étaient très noirs, très sombres, quand, techniquement, le personnage de Superman est supposé être...
un peu plus joyeux et supposé être, tu sais, c'est ça, moi, je combats le mal, je suis le bien, etc., etc. Fait qu'on retrouve cette proposition-là dans celui-là, mais on essaie d'ajouter l'humour des Gardiens de la Galaxie pour lequel James Gunn a travaillé dans l'univers de Marvel. Donc, on essaie de rajouter des bouts funny, fun, fun, plus comiques au travers de tout ça, mais... Est-ce que c'est à cause de que ce soit Superman, pour en avoir parlé avec mon collègue Alexandre cette semaine au bureau, c'est un peu ça qu'on se disait, tu sais, est-ce que si ça avait été un autre héros que Superman, qu'on connaît quand même très bien, parce que c'est le sixième Superman cinématographique, il y a eu plus de Batman, mais c'est le sixième Superman, tu sais, est-ce que si ça avait été un nouveau héros, tu sais, est-ce que si ça avait été un film sur Monsieur Fantastique, par exemple? Est-ce que ça aurait été plus à propos de mixer humour et sérieux du personnage comparativement au Superman, même si David Corin Sweat, qui est nouveau, là, on l'a jamais... Ben, il a fait des petits films avant ça, mais t'sais, jamais de gros, gros films. C'est vraiment son premier gros film au cinéma. Qui plus est, il est rôle principal de ça et tête d'affiche. Fait que disons que son 750 000 piastres qui est payé pour ce film-là, il va être multiplié par 4-5 pour le Superman 2. Surtout qu'à sa première fin de semaine, il avait déjà remboursé son budget. Fait que, puis mais il y avait une promo aussi. Là, si le budget du film allait bien, il allait être payé un petit peu plus. Mais ça reste quand même drôle que le personnage principal ait payé moins cher que le méchant. Je pense que Nicolas Hoult était payé 2 millions, sauf erreur. Fait que... Il manque un petit quelque chose. T'sais, autant cet humour-là qui fonctionne énormément dans Les Gardiens de la Galaxie parce qu'on ne connaissait pas particulièrement bien à ce moment-là Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Groot. T'sais, c'était pas les personnages les plus connus de l'univers Marvel. Fait qu'on pouvait se permettre d'être un peu plus drôle, loufoque avec eux autres. Mais tandis que Superman, comme il est super connu, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, même si je viens de le faire par inadvertance, mais tu sais, sans être le plus connu de la gang, en étant le plus connu de la gang, Superman, dans l'univers DC, on peut se permettre un petit peu moins de jeu à changer le personnage plus qu'il en est. Donc, on est, oui, beaucoup plus dans la représentation qui sont faites dans les comics, dans les bandes dessinées. Mais on dirait qu'au cinéma, parce qu'on est habitué dans les dernières années, pas juste à cause de Marvel, mais tu sais, les derniers DC aussi, tu sais, le Batman contre Superman, c'est pas un film joyeux, là. C'est très, il fait noir, c'est sombre, ça explose, puis c'est ça, il pleut tout le temps. Tandis que dans celui-là, il y a des scènes qui se font au gros soleil. Fait que tu sais, on est complètement dans un univers différent. Littéralement, on est dans le but de repartir la franchise. Est-ce que James Gunn va avoir du pouvoir sur tous les prochains films qui s'en viennent? Disons que dans la fin du film, qui n'est pas tout à fait une scène d'après-générique, qui est juste avant le prochain générique, on dévoile qui sera le prochain personnage de DC à obtenir un film ou une série. Encore là, les deux sont possibles, même s'il y a déjà une série qui existe de 6 ou 7 saisons de ce personnage-là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des trucs... Ben, c'est sûr que c'est invraisemblable, parce que ça reste quand même un film de super-héros. Mais tu sais, il y a des trucs qui peuvent... un petit peu moins bien, ou en tout cas que le mix se fait un petit peu moins bien. Puis on respecte, quand on revient dans cette tradition-là, que le méchant, il est très méchant. Puis le gentil, ben c'est le plus gentil. Fait que tu sais, on respecte cette règle-là qu'on avait avant, le début de tout ce MCU-là, que là, on pouvait jouer sur le fait que le gentil, t'es pas tout à fait gentil, le méchant, pas tout à fait gentil, mais t'as fait méchant. Fait que là, dans celui-là, Lex Luthor, il est méchant, puis il veut se venger de Superman parce qu'il l'aime pas. Puis à l'inverse, ben Superman, il est bon, il fait les bonnes choses, ou en tout cas, il pense qu'il fait les bonnes choses, puis il veut faire les bonnes choses. Dans les moins, les parents de Clark ont l'air de ses grands-parents, fait que ça, c'est complètement raté à mon avis. Mais sinon... Un excellent gag visuel, c'est la fameuse réponse à la question « Pourquoi est-ce qu'il y a certains super-héros qui sont pas là, dans les films des autres quand il se passe quelque chose dans la ville. À titre d'exemple, Thunderbolt se passe à New York et jamais Spider-Man vient faire son tour. Comme dans tous les autres Marvel, évidemment, on n'est pas capable de caster tous les personnages qui doivent être géographiquement situés dans cette ville-là quand il se passe une catastrophe. Ben, la joke est bonne dans Superman de « il va pas à un combat ». Il y a des raisons, ça se passe quand même, puis ben, il y a d'autres choses à vivre, fait qu'il va vivre d'autres choses à la place. Ça, c'était un bon segment, ce segment-là avec Lois qui est quand même drôle. Mais tu sais, c'est ça, il y a un petit quelque chose qui manque pour être vraiment sa grosse coche, mettons. Même si les critiques sont extrêmement positives, je trouve qu'il y a une petite affaire qui manque pour que ça soit comme encore plus cool, mais... Il vaut la peine d'être vu sur grand écran, malgré ses imperfections, mais pour repartir l'univers DC, James Gunn frappe fort, ça c'est sûr, on peut lui donner. Là, c'est un passionné là, de ce genre de film-là. Fait que, évidemment, il va avoir tiré son épingle du jeu. Et sinon, ben, il y a certaines séries DC aussi qu'il faut... peut-être avoir en tête pour certains personnages parce que bon, ils apparaissent pas de nulle part non plus, le Green Lantern. Puis il y a un caméo aussi d'un autre personnage qu'on voit un peu rapidement, mais qui a sa série DC en ce moment également sur Internet, qui vient faire un caméo. Donc on est dans cet univers-là. Il va y avoir d'autres films, ça c'est sûr et certain, parce que il y a déjà une affiche. Puis, me semble, je pense même que c'est James Gunn qui l'a proposé pour le prochain DC Movie. C'est à la fin du film qu'on va réussir à le trouver et on garde un comic relief grâce à ça. Donc, à voir, je pense même que c'est déjà l'année prochaine, le prochain film de DC. Fin de compte à pause, au retour, la conclusion de l'émission cette semaine sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. De retour au deuxième service pour ce dernier segment cette semaine, puisque ben, on a appris. En fait, qui seront les interprètes du film de Zelda qui devrait sortir, c'est dans 2 ans peut-être. Donc, on a annoncé qu'il allait avoir un film avec du vrai monde pour jouer dans Zelda. Et bien évidemment, la question, elle est bon train. Quel âge auront les personnages pour faire quel film surtout? Parce que est-ce qu'on y allait avec une histoire originale ou si on reprenait un jeu qui existe déjà. Si on se fie au film de Mario, ben c'est une histoire originale, mais l'âge de Link et de Zelda allait influencer très certainement, parce qu'on a le Link adulte, on a le Link enfant, et on a Link, Toon Link, donc... j'allais dire Link animé, mais pas tout à fait, parce qu'on peut tout animer. Mais voilà, donc finalement, des 3 Link qu'on peut jouer à Smash, ce sera Link enfant qui sera sélectionné, puisque ben, le jeune a 16 ans. Donc peut-être quand le film va être terminé, il va en avoir 18, mais donc ce sera, et il a un visage très jeune. Donc Link enfant a été sélectionné en les traits de Benjamin Evan Ainsworth, qui lui aussi n'a pas joué dans beaucoup de choses, donc ce sera son premier grand rôle. Et Zelda, elle, est un petit peu plus vieille, elle a 21 ans. Elle sera jouée par Bo Braxton, qui, elle aussi, est une actrice qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, ce sera des nouveaux acteurs pour interpréter les personnages. Et quand on dit interpréter les personnages, c'est aussi une bonne question parce que, comme le veut la tradition, Link ne parle pas dans la vie. N'est pas un personnage animé, ou en tout cas qui peut parler. C'est un personnage animé, mais qui ne peut pas parler parce que le doubleur qui devait faire la voix du personnage était décédé avant d'enregistrer sa voix. Et le Link, en fait, celui qui devait faire la voix de Link n'avait pas été en mesure de pouvoir enregistrer sa voix. Donc, on a décidé de garder le personnage muet depuis toutes ces années-là. Donc, la question était soulevée. Est-ce que le personnage va parler ou non dans le film? On le sait pas. Ça sera à voir lors de la première bande-annonce, voir s'il dira quelque chose. Mais le fait qu'il n'est pas très vieux, ça laisse supposer que ce seront peut-être les jeux du Nintendo 64 qui vont être, qui vont être peut-être sélectionnés si c'est un Zelda qui existe déjà. Donc, Ocarina of Time ou Majora's Mask, qui sont deux jeux particulièrement aimés des consommateurs de la franchise et du Nintendo 64 particulièrement parce que ce sont deux des titres forts. Il peut y en avoir d'autres, mais tu sais, où Link enfant est techniquement sélectionnable ou en tout cas sélectionné dans cette ligne du temps-là, parce que s'il y a une ligne du temps qui est très compliquée dans l'univers du jeu vidéo, c'est bien Zelda. On peut oublier les Breath of the Wild qui sont un peu plus vieux, quoique peut-être est-ce que l'âge n'influencera pas du tout la décision de faire l'histoire et d'y aller quand même avec des séquences où le personnage est plus vieux. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à un Twilight Princess? Sait-on jamais. Mais voilà, donc Ocarina of Time et Majora's Mask pourraient être les jeux les plus propices, ne serait-ce que parce qu'ils sont très aimés, mais ce qui pourrait être également un dissuasif pour Nintendo de vouloir faire un film basé sur une partie de la franchise qui est très aimée. Fait que c'est un couteau à double tranchant dans ce cas-ci. Ou si on y va d'une histoire complètement originale, de quoi auront-ils l'air? De quoi, dans quel univers seront-ils transportés? Est-ce qu'on reste à Hyrule? Est-ce qu'on se déplace? Ou est-ce qu'on s'arrange pour qu'à la fin du film, on soit capable de le faire concorder avec le fameux film de Smash qui n'est pas annoncé, mais qui serait le fantasme de plusieurs d'avoir un film choral avec tous les univers de Nintendo réunis à la manière des Avengers? C'est pas complètement impossible, ça s'est déjà vu, mais c'est sûr que Mario animé Chris Pratt aux côtés des acteurs en vrai, aux côtés de Benjamin Evan Ainsworth, ça pourrait être quand même particulier, mais il y a d'autres personnages comme ça qui peuvent être en vrai. Il y a Metroid, il y a Captain Falcon, sinon, ouais, après ça, rapidement, c'est parce qu'on tombe encore dans les autres personnages animés. Kirby en vrai, je sais pas. Kirby en personnage réel, ça pourrait être spécial. Mais ça reste à voir. C'est à 2027, sauf erreur, pour le film The Legend of Zelda, mars 2027, très exactement, s'il n'y a pas de délai qui est rajouté. Donc, d'ici 2 ans, on pourra voir ce film-là sur grand écran. Nouveau film, premier film en vrai, avec des personnages de la franchise de Legend of Zelda. Et c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. À la prochaine. Salut.